La France bouge, c'est jusqu'à 14h et c'est l'heure de retrouver Elisabeth Assayag pour la solution du jour.
Raphaël. Mieux s'organiser dans son quotidien pour profiter pleinement de la vie. Eh oui, ben c'est possible. Grâce à vous, Elisabeth, et à la solution que vous avez trouvée. Ça s'appelle Lily Facilite la vie et c'est une appli.
Oui, Lily Facilite la vie s'adresse aux particuliers et aux entreprises. L'objectif, eh bien, c'est qu'on arrive à trouver des solutions pour tous les tracas de la vie quotidienne ou comment arrêter de se prendre la tête. C'est pas moi qui le dis, c'est sa fondatrice quand on lui demande de résumer le projet de sa start-up. C'était créé il y a un an. L'appli fonctionne avec les particuliers. Elle est aussi à la disposition des entreprises pour améliorer la qualité de vie au travail. Bonjour Magali Siméon.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Lily Facilite la vie. Alors comment vous est venue cette idée de vouloir faciliter la vie de tout le monde? C'est quand même ambitieux, hein?
Oui, absolument. C'est sûrement parce que j'aurais bien aimé qu'on me la facilite. J'ai 50 ans et j'ai 3 enfants, donc j'ai eu plein d'occasions de gérer des tracas, de prendre des décisions. Et en fait, j'ai constaté que quand on a la bonne information, au bon moment pour prendre notre décision, ça facilite la vie, en fait. Et donc, à un moment donné, entre le fait de le vivre, moi, je me suis dit, on peut peut-être essayer d'en faire un site, une appli et permettre à nos membres d'arrêter de se prendre la tête.
Oui, parce que vous vous êtes dit, tout le monde n'a pas la bonne copine ou le réseau qu'il faut au moment où on a un petit tracas.
Oui, je pense
c'est là où vous intervenez.
Absolument. L'idée, c'est de dire que... on a travaillé avec une sociologue pendant 6 mois pour trouver ce qui était important dans la vie des personnes. Et donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est la famille et avec un vrai sujet autour de l'orientation scolaire des enfants. Après, tout ce qui est autour du domicile, alors que ça soit la location, les travaux, et puis autour des parents qui vieillissent. Et en fait, on a regardé avec eux quels étaient les sujets où ça bloquait parfois et où est-ce qu'ils allaient chercher les informations. Et des fois, c'est des choses, c'est comment je peux faire en sorte que les devoirs, ça soit plus une galère avec mon fils.
Alors, par exemple, si là, mon enfant, on détecte une difficulté à l'école, hein, c'est la rentrée, en quoi Lily facilite la vie peut m'aider?
Donc, vous allez sur le site et là, vous allez avoir déjà des articles qu'on a écrits avec des spécialistes et qui vont vous expliquer comment vous pouvez, par exemple, organiser différemment le déroulement des devoirs.
Donc, votre propre contenu, ce ne sont
absolument
pas des liens?
Non. Okay. Non, c'est notre propre contenu et on choisit nos experts. Après, donc vous allez avoir 2-3 articles par thématique et puis après, vous allez avoir un forum, donc une communauté, vous allez pouvoir poser la question et où nous, on modère pour que les réponses soient toujours fondées sur du conseil et comment je prends une première action pour avancer. Et puis, si vraiment le problème est critique et que ça ne suffit pas, alors là, vous pouvez trouver des services sur Lily. Donc, par exemple, vous allez pouvoir acheter une question que vous adressez à un réseau d'éducateurs spécialisés en France et qui, sous 48 heures, vont vous dire, vous allez dire, voilà ce que je constate. Et ils vont vous dire, écoutez, essayez ça. Et toujours dans l'idée de proposer des actions.
Vous dites acheter une question, c'est payant quand même au départ?
Alors, l'accès à Lily, c'est 3,99€ par mois pour un particulier. Et donc, pour 3,99€, ça permet d'accéder à tous les contenus, à la communauté. Et puis, un outil qu'on a imaginé aussi pour organiser le quotidien à plusieurs. Et ensuite, ça permet d'accéder à un catalogue de services où là, vous achetez des services en fonction de votre besoin.
Catherine?
Alors, on parle beaucoup d'enjeux vie privée, vie professionnelle. Oui. On parle aussi beaucoup de charge mentale des individus. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises travaillent avec vous pour aller peut-être acheter une prestation pour leurs salariés, pour leur libérer du temps de cerveau disponible, par exemple?
Oui. En fait, je suis personnellement très agréablement surprise par l'accueil. Donc, on est en pleine partie de business développement, hein, comme toute start-up qui se respecte. Je suis très agréablement surprise par l'accueil de beaucoup d'entreprises qui sont vraiment concernées, pas juste pour faire de la cosmétique, avec qui on discute, qui nous demandent. Là, hier, j'étais chez un client qui nous demande de faire un espace spécifique sur équilibre vie privée, vie professionnelle pour leurs collaborateurs. Donc, oui, je pense que ça bouge, en fait.
Donc, ça signifie que vous avez déjà mis en place une communauté à l'intérieur de votre plateforme.
Oui.
Comment vous êtes allé la chercher?
En fait, les premiers sont des... On a beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux. Et donc, les premiers sont des particuliers qui nous ont trouvés. Alors, trouvés, on a fait des campagnes sur les réseaux sociaux et qui ont formé la base des premiers fidèles. Alors, soit de gens, comme disait tout à l'heure Maëva, qui nous connaissaient, ou alors de personnes qui avaient un problème et qui ont pris un abonnement à Lily. Puis après, on a eu les premières entreprises qui étaient plutôt des petites entreprises. Et puis là, maintenant, on commence à adresser des grosses entreprises et on aura 10 000 membres à la fin de l'année.
Même pour les entreprises, ces systèmes, c'est 3,99€ ou c'est sur un système d'abonnement, de forfait?
C'est un système de forfait en fonction du nombre de salariés.
Vous avez déjà combien d'entreprises qui vous suivent?
Aujourd'hui, on a 5 entreprises et on est en train de signer, je vous dis, Alors, j'ai pas fait la. On aura 10 000 membres à la fin de l'année. Ça doit représenter 6 ou 8 entreprises, dont des très grands groupes.
Je fais un peu comme Nicolas Briand tout à l'heure. Vous voyez loin? Vous voyez déjà à l'international?
Oui, alors nous, on se voit plutôt en Europe. C'est-à-dire dans des pays qui ont des cultures qui sont voisines des nôtres. Et on travaille avec des partenaires qui ont aussi la capacité de nous accompagner assez vite.
Oui, pour avoir aussi finalement d'autres méthodes dans les autres pays qui sont peut-être pas toutes, qui fonctionnent pas forcément comme nous.
Oui, mais et surtout parce que c'est ce qui est fondamental, c'est notre promesse pour garantir la qualité des services.
Ça s'appelle Lily facilite la
Absolument.
Vie. On est ravis de vous avoir eu avec nous. C'est la solution aujourd'hui sur Europe 1. Il est midi 57. Vous restez avec nous. On va faire une pause. Le journal, et puis juste après, on va essayer d'aider les aidants. Essayez de vous montrer aussi qu'il existe déjà des dispositifs pour vous soulager. On vous attend. Vos témoignages, 3921 et Twitter. A tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Aujourd'hui, ce sont les aidants que nous allons à notre tour essayer d'aider. Vous allez voir qu'il existe des dispositifs très efficaces. Car vous le savez peut-être, la ministre de la Santé a pris conscience qu'il fallait vraiment agir aujourd'hui pour les soutenir. Elle a annoncé que dans le budget de la Sécurité sociale pour 2020, un congé rémunéré pour les aidants allait être programmé. Nous allons donc, à notre tour, essayer de voir quels sont pour l'instant, les dispositifs qui sont là pour soutenir les aidants. Bonjour Florence Leduc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'Association française des aidants. Et si on a choisi de vous recevoir, c'est notamment parce que vous, avec l'association, vous avez mis en place ce qu'on appelle les cafés des aidants un peu partout sur le territoire. Il y en a 215 aujourd'hui qui existent. Racontez-moi comment est née l'idée. Je crois que c'est une maman qui est venue vous voir, c'est ça?
Oui, c'était en 2003. Une jeune femme est venue me voir me disant que sa petite fille était porteuse d'une maladie rare, qu'elle ne trouvait nulle part où aller pour être soutenue. Et donc, elle m'a donné l'idée de faire ces cafés des aidants. Et c'est une excellente idée qu'elle a eue, puisqu'à cette époque-là, et jusqu'en 2009, date à laquelle j'ai pris la présidence de l'association, ces cafés des aidants sont des lieux, des temps et des espaces où les gens se rencontrent, partagent énormément, s'informent également, puisqu'on sait que l'information est une vraie question pour les aidants.
Le premier café a ouvert où?
Le premier café avait ouvert à Paris en 2003.
Et puis, petit à petit, on vous les a demandés?
Et oui, petit à petit, on nous les a demandés, et petit à petit, nous sommes allés sur les territoires, aller voir avec les gens. On n'ouvre pas des cafés des aidants comme ça, on va dire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas l'Association française des aidants qui est propriétaire de tous les cafés des aidants, c'est dans le cadre de partenariats sur l'ensemble du territoire, avec des associations, des mutuelles, des associations d'aide et de soins à domicile, avec des fédérations hospitalières.
Il y a un maillage qui se met en place.
Il y a un maillage territorial qui se met en place et je suis très heureuse que nous soyons arrivés à 215 cafés, mais le chiffre n'est pas important. Il faut que ce soit bien intégré dans un endroit où les gens se connaissent, se coordonnent, savoir qui est qui. Parce que chacun dans son coin, on ne va pas réussir. C'est de cette coordination et d'être cette association. Et ça, on le trouve sur les territoires. On trouve de la dynamique.
Qu'est-ce qu'il y a justement dans ces cafés qu'il manquait finalement aux aidants? Qu'est-ce qu'on vient y trouver? Qu'est-ce qu'on vient y chercher?
On vient y chercher de l'information. C'est ce que les gens disent en premier. On a fait une étude d'impact sur les cafés des aidants. Ça nous a permis effectivement de regarder ce qui se joue. Et puis, ces lieux, ces temps et des espaces, c'est s'autoriser à la parole. C'est se sentir écouté, c'est aussi écouter les autres et c'est de créer des liens entre les gens, parce que ça c'est très très étonnant, les gens arrivent à créer des liens et ensuite beaucoup disent que grâce au Café des aidants, ils peuvent prendre le temps de réfléchir sur leur propre engagement vis-à-vis de l'aidant, de la personne qu'ils accompagnent et ça c'est très important. Parce que pour qu'une aide soit efficace, il faut que la personne qui accompagne, qu'on appelle le proche aidant aujourd'hui, et la capacité de pouvoir décider pour lui-même de ce qu'il peut, de ce qu'il veut dans la relation d'aide à l'autre, pour qu'elle soit harmonieuse.
Elisabeth, ce qu'on n'a pas dit, c'est que des aidants en France, il y en a beaucoup.
Énormément, et il y en aura de plus en plus. 11 millions de Français accompagnent un proche, ça correspond à un Français sur 6 qui soutient au quotidien un parent, un enfant ou un proche en situation de dépendance. Ça peut être 5 heures par semaine, hein, ça correspond à 38% des aidants, ou plus de 40 heures par semaine, pour 9% d'entre eux tout de même. L'aide qu'ils apportent, c'est un engagement de chaque instant et parmi eux, 58% sont des femmes.
Catherine, vous connaissiez les cafés des aidants ?
Alors, je ne connaissais pas. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de donner du lien. Ça casse aussi la solitude de celui qui aide la personne. Qui sont les personnes qui tiennent ces cafés ? Est-ce que c'est des gens qui sont formés, finalement ?
Vous avez des animateurs. Hein ?
Les personnes qui animent les cafés des aidants partout sur le territoire national sont des personnes qui, dans le cadre du programme de mise en place d'ouverture d'un café des aidants, ont participé obligatoirement, je dirais, aux formations que nous proposons et qui se forment tout au long, puisque tous les ans, nous mettons en place deux cycles de formation pour tous les animateurs des cafés des aidants et les psychologues.
Si je suis proche aidant, demain, je peux obtenir cette formation et devenir à mon tour animateur d'un café, par exemple ?
Il faut être rattaché à la structure qui va porter le café des aidants. Il y a obligatoirement une structure. Ça ne peut pas être des individuels, si vous voulez, puisqu'il y a toute la structure qui est présente, la location des salles, et puis le savoir-faire aussi des structures associatives ou les entreprises, etc.
Catherine ?
À partir de quel moment un aidant frappe à votre porte ?
À partir du moment où la personne qui est accompagnée, quelqu'un est entré dans les maisons, dans les territoires, et a remarqué qu'il y avait quelque chose où la personne était fatiguée, la lassitude, le souci, pour certains, avoir démissionné de son activité professionnelle avec toutes les conséquences, y compris sur le plan économique. Et c'est ce repérage qu'on demande à tous les intervenants professionnels, que ce soit des médecins, que ce soit dans des hôpitaux, que ce soit à domicile, de repérer lorsqu'effectivement on est dans cette situation où on voit qu'il y a un aidant qui commence à être en difficulté, pour pouvoir juste flécher, prendre le petit fil pour dire voilà, là où il y a des informations, là où il y a des choses qui peuvent se passer pour vous.
C'est important, Elisabeth. Hein. Les aidants doivent prendre soin d'eux.
Mais oui, parce que les aidants sont exposés, eux aussi, à un risque de surmortalité de 60% dans les 3 ans qui suivent le diagnostic. Hein. 24% des arrêts de travail non prévus concernent des aidants. On compte en moyenne 16 jours d'absence par an par salarié aidant pour assurer leur charge.
Finalement, Florence Leduc, aujourd'hui, ces cafés, ils permettent aussi aux aidants de s'aider entre eux.
Oui.
Ça, c'est important. Là, il n'y a pas de tabou.
Il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup d'entraide. On le voit dans l'étude d'impact. Je ne savais pas qu'on allait trouver ça. Beaucoup d'entraide. On se revoit. On fait un pique-nique. Oh, il y a ce monsieur qui est jeune, qui a un petit enfant qui est malade. Et moi, je me plains. Et pourtant, mon mari et moi, on est vieux. On partage des choses. On se rend service. Allez faire le marché avec votre petite dame et moi je vais garder le petit, etc., etc.
Et puis on peut se dire qu'on en a marre aussi. On peut se dire des choses qu'on n'ose pas dire à d'autres.
On a le droit de le dire à cet endroit-là.
Oui, mais on sait qu'on ne peut le dire que si on a l'impression que la personne vit des choses de même nature. Et si ces choses de même nature, elles ne sont pas forcément identiques. Ce jeune monsieur qui a un bébé malade et cette vieille dame qui a un mari malade. Mais c'est de même nature. C'est cette question de cette présence à l'autre. C'est cette question de partager et de se sentir autorisé à dire ce qui va bien et là où on n'en peut plus. Mais la question pour nous aussi, c'est de dire arrêtons d'attendre que les gens n'en puissent plus.
On reste ensemble et on continue à aider les aidants aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Quand on est aidant, on est aussi dépendant de la personne dont on a la charge. Vacances compliquées, voire parfois impossibles. C'est pour ça qu'est née l'association Répit Famille. À tout de suite.
La France bouge avec un dossier consacré aux aidants cet après-midi. Quels sont les dispositifs existants pour les soulager, leur donner la parole ? Nous vous la donnons aussi sur Europe 1. Vous êtes aidant, vous en avez autour de vous. Appelez-nous pour témoigner au 3921 ou écrivez-nous sur Twitter @Europe 1, Raphaël.
Quand on a la charge d'une personne âgée dépendante ou d'un enfant, un conjoint malade, se pose parfois la question des vacances. On s'interdit de partir parfois, on s'interdit de souffler aussi. Et pourtant, c'est plus qu'utile. Bonjour Jacques Cessillon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'association Vacances Répit Famille. Vous permettez en fait aux aidants, hein, tout simplement, d'avoir cette espèce de sas. Racontez-moi comment est née l'idée.
Écoutez, l'idée, elle est née de manière toute simple, en définitive. Hein. L'association VRF appartient au monde des groupes de protection sociale, qui sont essentiellement des caisses de retraite associées à des caisses de prévoyance, et dont le public naturel, c'est bien évidemment les personnes âgées. Hein. Après, bien sûr, il y a également les personnes handicapées, les personnes malades, mais c'est essentiellement les personnes âgées. Et aujourd'hui, on est dans une logique, hein, on va dire à l'époque, hein, on se situe en 2008 quand on commence à réfléchir sur ce sujet-là. À l'époque, on est dans cette logique où on prend conscience que la société ne pourra plus prendre en charge ses aînés dans des structures collectives et qu'il faudra favoriser, autant que faire se peut, le maintien à domicile. Et assurer le maintien à domicile, ça veut dire solliciter la sphère familiale pour pouvoir accompagner la personne à y rester le plus longtemps possible. Et par rapport à ça, on s'est posé la question des moments de répit, des moments où les personnes peuvent souffler, peuvent respirer et voir autre chose. Et on s'est rendu compte que, alors peut-être parce que dans notre activité globale, on est à la fois caisse de retraite, gestionnaire de... Je parle du groupe ProBTP, hein, auquel j'appartenais, j'étais directeur des activités sociales à l'époque, et on était également gestionnaire de structures de vacances et de structures sanitaires et médico-sociales.
Vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose
à
faire, à
imaginer. Un truc à faire. Voilà, il y a peut-être un truc à faire.
Donc vous ouvrez un premier établissement en Touraine, c'est
d'abord,
ça.
D'abord, on commence à imaginer le dispositif, parce que c'est pas aussi simple. Hein,
On va sauter les étapes quand même, hein, parce que si on construit ensemble, on en a pour un moment.
Ouais, alors, on est d'accord.
Le premier établissement Touraine.
Alors le premier établissement, c'est l'AFM qui l'a ouvert à Saint-Georges-sur-Loire, c'était en avril 2013, de mémoire, Florence. Hein. C'est une structure, c'est une petite structure qui a bénéficié d'un accompagnement spécifique au travers de places disponibles dans le cadre des plans maladies rares.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet établissement? Il accueille à la fois des aidants et des aidés?
Absolument. C'est un établissement qui est adossé à une structure de soins renforcés, à une masse de soins renforcés, et qui va permettre d'accueillir des gens qui ne pourraient aller en aucun cas dans n'importe quel autre type d'établissement.
Combien est-ce qu'il y a de places?
Il y a 8 places.
8 places. Est-ce que d'autres sont prévues? Est-ce que d'autres vont ouvrir?
Oui, alors aujourd'hui, si vous voulez, au-delà des 8 places de Saint-Georges-sur-Loire, des 18 places de Saint-Lupicin, il y a les 26 places, personnes âgées, elles, de Fondette. Hein. Donc, la grande difficulté...
Se situe où, pardon?
À côté de Tours.
À côté de Tours.
À côté de Tours, à quelques kilomètres de Tours. En fait, si vous voulez, la grande difficulté de la solution sur laquelle on a travaillé, sur laquelle on travaille toujours, c'est tout simplement la reconnaissance médico-sociale de la structure. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir sécuriser l'accompagnement de l'aidé pour que l'aidant puisse souffler. En fait, le constat...
C'est-à-dire que je suis aidant, je viens déposer un dossier parce que c'est sur dossier, je vais pouvoir peut-être avoir accès à ces places, et pendant que quelqu'un va prendre en charge, moi je vais pouvoir aller faire une balade tout simplement.
Oui. Si vous voulez, oui, tout à fait. Pour illustrer ce que vous venez de dire, en fait, les séjours aidants aidés existent depuis longtemps. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau là. Notamment France Alzheimer a coutume d'organiser des séjours où l'aidé et l'aidant vont être pris en charge et vont partir en vacances. Et nous, on s'est rendu compte que si en définitive l'objectif, ça ne pouvait que correspondre à mettre sur place les mêmes dispositifs que ceux qui sont à la maison tout au long de l'année,
c'est pas vraiment
du répit, c'est pas vraiment le soulagement attendu et recherché. Par contre, si on arrive à assurer une prise en charge sécurisée de type médico-social, comme elle pourrait exister dans une place d'hébergement temporaire en proximité du domicile, eh bien, à ce moment-là, on sécurise, et donc on va permettre à l'aidant de souffler et de respirer. Mais, en définitive, ce que l'on vise d'abord et avant tout, c'est à ne pas séparer l'aidant de l'aidé. Parce que les places d'hébergement temporaire, elles existent à travers toute la France, et tout le monde y a accès. Hein. Elles sont peut-être difficiles à obtenir.
On est dans une autre démarche.
C'est celle de ne pas séparer le couple aidant-aidé.
On est bien d'accord. Catherine?
Alors, il y a peu de places quand même, vous évoquiez ça. Est-ce que c'est des dossiers compliqués à monter? Parce que si c'est encore de la paperasse pour l'aidant, est-ce qu'il ose finalement postuler?
Oui, il ose parce que quand il nous appelle...
Parce qu'il en a besoin.
D'abord, il en a besoin, et puis quand il nous appelle, si vous voulez, la première chose qu'on va faire, c'est de le rassurer. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner dans la réalisation de l'ensemble de ses démarches administratives. Le fait de gérer des structures sanitaires et médico-sociales nous a fait prendre conscience que, en définitive, quand on va accueillir un couple, l'aider, c'est comme s'il rentrait en établissement. C'est une entrée en établissement. Donc ça veut dire, vous l'avez dit, c'est de la paperasse. Et donc cette paperasse, on va la simplifier à travers une prise en charge, à travers une plateforme d'évaluation
plateforme
et d'aide
à la réservation,
qui demain a vocation à être à la disposition de l'ensemble des structures qui constitueront, on l'espère en tout cas,
oui, parce
le
que
réseau
vous visez
VRF.
10 établissements un petit peu partout en France.
Ben on vise 10 sur les 5 ans, pour être très, très, très clair. On vise en fait une, on veut dire un essaimage sur l'ensemble du territoire national qui fasse que, notamment quand le besoin existe, on puisse trouver la réponse à proximité sans avoir à faire des tonnes de kilomètres. Mais on vise aussi à ce que les personnes puissent avoir accès à de vraies vacances sans aller tous les ans au même endroit parce que la proposition serait... Trop rare, en définitive.
Elisabeth, vous avez trouvé, je crois, une association qui permet aussi la possibilité à l'aidant d'être remplacé au domicile.
Oui, vous avez bulder-aidant.fr. C'est une association basée à Montauban. Elle est nécessaire hein, si vous êtes un aidant et que vous souhaitez vous absenter pour vous promener, pour pratiquer votre loisir ou participer à une réunion familiale ou tout simplement vous reposer. Cette association bulder-aidant.fr peut vous aider. Vous avez aussi la pause des aidants. Elle existe depuis 6 ans. Elle est à Forbach. C'est un groupe de parole qui permet aux aidants de rompre leur isolement. Parce que finalement, c'est l'isolement, le déclic pour venir vous solliciter.
Non, je pense que le vrai déclic, c'est l'épuisement. Parce que l'isolement, il va se régler à travers des solutions de proximité, à travers des solutions d'accueil de jour, de café des aidants, de dispositifs de cette nature. Par contre, là, on est plus dans une logique de je ne vais pas dire de burn-out, parce que le terme est peut-être un peu fort, mais d'épuisement et de la nécessité d'avoir un peu de temps. Les solutions que vous évoquez, qui sont nécessaires et utiles, il est bien évident qu'elles sont ponctuelles.
Il faut avoir tout le panel finalement
exactement.
Pour pouvoir être aidé correctement. On reste ensemble, on va continuer à débattre.
Avec
si
plaisir.
Vous le voulez bien. Il est 13h28.
Europe 1.
Et on va s'intéresser justement, toujours pour aider les aidants, à une plateforme disponible dans votre smartphone. Et au-delà, c'est Tilia. À tout de suite. Les aidants sont à l'honneur dans La France Bouge, eux aussi ont besoin d'aide et on en parle avec vos invités, Raphaël Duchemin. Je rappelle que vous pouvez nous appeler pour témoigner au 3921, c'est 50 centimes la minute, ou via Twitter, @Europe1. On parle aussi des dispositifs, hein, évidemment, aujourd'hui, qui aident les aidants. Et puis, vous le savez, on est à l'ère du numérique, Céline. On est tous connectés et c'est souvent quand on est soi-même en situation que l'on s'aperçoit qu'il faut créer, imaginer de nouveaux outils, de nouvelles solutions. Bonjour Christine Lamidel.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale et fondatrice de Tilia. Alors Tilia, c'est une plateforme qui seconde hein, justement les proches de la personne dépendante. Vous travaillez à la BNP Paribas. Vous êtes ce qu'on appelle une intrapreneur, hein, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est en voyant justement beaucoup de personnes âgées passer dans votre travail, mais aussi en voyant votre grand-mère alitée, que vous avez pris conscience qu'il fallait faire quelque chose.
C'est ça, c'est un mix des deux, un engagement personnel en raison effectivement de l'accompagnement de fin de vie de ma grand-mère où j'ai identifié hein, des besoins en tant qu'aidant et plus particulièrement vu mes parents qui étaient aidants de première ligne mettre en péril même leur propre santé.
Vous dites aidant de première ligne
Parce que effectivement.
Ils étaient en prise directe, vous étiez aussi aidante mais...
Mais dans une moindre mesure. Et l'engagement aussi de BNP Paribas d'aller sur des sujets porteurs de sens et donc de mettre en avant des initiatives de collaborateurs. Donc j'ai bénéficié effectivement d'un accompagnement de mon groupe.
Qu'est-ce qui vous manque à ce moment-là quand vous voyez vos parents en difficulté et qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ?
Alors le côté organisationnel, très pratico-pratique. Moi je suis maman de 3 enfants. Aujourd'hui, on sait que les aidants sont majoritairement des aidantes. C'est en train de changer, hein. Je ne veux pas... Voilà.
C'est une réalité, les chiffres sont là.
Je ne veux pas être féministe ni quoi que ce soit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut concilier vie pro, vie perso, ce rôle d'aidant qu'on subit aussi, qui est soudain, et ce n'est pas inné, on n'apprend pas, quoi. On le fait, on improvise. Et donc, ça a été toute la difficulté d'avoir accès à la bonne information au bon moment. Comme le disaient Florence et Jacques, il y a plein d'initiatives, malheureusement, à l'heure du numérique et du web, on n'accède pas à l'information. Donc je voulais quelqu'un qui puisse me soulager, me relayer en tant qu'aidante, avoir un assistant personnel, comme les patrons de boîte qui ont une assistante qui prend les rendez-vous. Quelque chose de très pratico-pratique.
Qui puisse organiser à votre
place. Voilà, parce qu'aujourd'hui, prendre un rendez-vous, coordonner les différents agendas, c'est extrêmement long, quoi, chronophage, énergivore. Et donc là, se dire, je peux m'épauler, quoi, être épaulé par quelqu'un qui va faire à ma place et m'agréger, puisque le numérique, il faut aussi utiliser les apps, c'est pour avoir le côté notification en temps réel du suivi du passage des prestataires. Être informé, me rassurer en tant qu'aidant que au domicile de mon proche, les prestataires sont bien passés et que j'ai bien l'information en temps réel.
Donc, c'est ce que fait Tilia aujourd'hui. Je peux me connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vais trouver quelqu'un qui va venir m'aider à organiser les choses.
Alors, nuance, venir, non. Parce qu'effectivement, on est sur des assistants personnels 24-24. Et ça, c'est un parti pris. Parce que ce n'est pas de 8h à 18h. C'est qu'à tout moment du jour et de la nuit, j'ai besoin de me sentir épaulée. Néanmoins, c'est via chat ou téléphone.
Et on voit sur Europe1.fr comment ça marche, effectivement.
Et donc là,
temps.
L'idée, c'est vraiment de se dire à tout le moment, je me sens seule parfois en tant qu'aidante. Et donc, j'ai besoin de solliciter quelqu'un qui va me donner de l'information, qui va me donner des contacts, qui va me faire des devis pour l'aménagement d'une douche à l'italienne, qui va être hyper réactif, qui va me prendre les rendez-vous avec le kiné, l'ergothérapeute, l'aide-soignante, l'infirmière. Et si on ne passe pas aujourd'hui par des prestataires, alors il y a les CLIC, les CCAS, mais il n'y en a pas partout. Si on ne passe pas par une grande franchise de services à la personne, il ne va pas lui agréger les services paramédicaux, tout ce qui est aussi loisirs, parce qu'on doit aussi pouvoir donner des accès à des loisirs, à des sorties. Et donc, je voulais quelque chose qui soit très complet, très global, une offre la plus adaptée aux besoins des uns et des autres, la plus personnalisée.
Catherine ?
Alors, en quelques mots, vous soulagez la charge mentale des aidants, de ce que j'en comprends. Vous êtes à l'intérieur de la BNP. Est-ce que, du coup, la BNP paye à vocation à diffuser ce service auprès de leurs collaborateurs qui sont eux-mêmes aidants ?
Alors aujourd'hui, on fait effectivement, on est soutenu par BNP Paribas, on vient de créer une structure juridique dédiée à Tilia. Notre engagement, c'est effectivement d'aller sensibiliser au sein du groupe pour les collaborateurs, mais pour les clients également, parce que nos clients vieillissent et il faut être présent sur des services aussi extra-financiers, être présent pour faciliter le quotidien de nos clients, mais pas que. Ça s'adresse à tout le monde et c'est pour ça que Tilia est une structure à part.
On reste ensemble et on continue à débattre dans un instant sur Europe 1. On parle des aidants.
Il est 13h36.
Europe 1.
Aider les aidants, c'est le dossier du jour. On vous attend, vous aussi, 3921 et Twitter. La France bouge avec vous. Vous avez la parole. À tout de suite.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h et cet après-midi, on aide les aidants sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Oui, nous sommes avec Florence Leduc, présidente de l'Association française des aidants, qui a mis en place plus de 215 cafés des aidants sur tout le territoire. Jacques Cessillon, directeur de l'association Vacances Répit, qui permet aux aidants d'avoir accès au répit avec un proche dépendant. Et puis Christine Lamidel, directrice générale et fondatrice de Tilia, une plateforme et une appli pour seconder les proches d'une personne dépendante. Voilà pour nos invités, toujours à mes côtés, Elisabeth Assayag et Catherine Testa. Elisabeth, je voudrais qu'on parle d'une autre appli qui est importante, peut-être pour que les aidants n'oublient rien.
Oui, l'appli Tous Aidants, pour éviter que les proches de la personne dépendante se mêlent les pinceaux, hein, ou qu'ils oublient certains rendez-vous. Cette appli propose de créer un groupe et de se partager tout sur un agenda commun.
Et puis des associations ?
Aidant Attitude, vous connaissez peut-être, qui a pour mission l'information et la prévention d'un aidant proche ou professionnel confronté donc à l'accompagnement. Ils mènent des projets en lien avec des professionnels de santé, des partenaires publics, privés, sur toute cette thématique hein, de l'aidant, sur son rôle, sur ce qu'il peut faire pour le rassurer aussi, c'est très important, prévenir, trouver des solutions, mais aussi partager des expériences.
Catherine Testa, notre coach, avait une question pour vous, je crois, Christine Lamidel.
Bah, quel était le prix, justement, de votre application ?
De Tilia.
Alors aujourd'hui, on est sur un abonnement mensuel de 45 euros par mois. Quoi, un abonnement mensuel ? 45 euros. Mais on essaye aussi d'aller sensibiliser en entreprise les DRH pour avoir un accompagnement pris en charge pour leurs salariés. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la conciliation des activités est très difficile. Et donc, il y a une vraie prise de conscience des employeurs pour le bien-être de leurs collaborateurs.
Aider, c'est aider des enfants, aider des personnes âgées, ça peut se traduire de différentes manières. On voyait que l'âge moyen, c'est 52 ans, c'est quelque chose qui est appelé à évoluer, Florence Leduc, dans les années qui viennent.
Alors, l'âge moyen est 52 ans, donc on est bien sur une moyenne. Ça veut dire qu'à partir de là, il y a un gros paquet sur les personnes âgées. Et il y a également tout ce qui est autour de la maladie chronique invalidante, dont on ne parle pas suffisamment, et aussi de toute la question des personnes en situation de handicap. Donc, ça varie énormément dans le temps, puisqu'on n'aide pas non plus toute la vie. Enfin, ça peut arriver parfois sur les questions du handicap, notamment. Mais il y a un renouvellement, il y a un renouvellement des personnes. Et aujourd'hui, on est aussi sur la question des jeunes aidants. L'Association française des aidants a mis en place un programme qui est sorti hier d'ailleurs, sur les jeunes aidants. Ce sont des jeunes qui, parce que la structure familiale est difficile ou fracassée, sans le dire à personne, et au détriment parfois du temps scolaire, du temps de jeunes, s'occupent d'un parent. Donc c'est véritablement une question de société qui va rentrer dans quelque chose de l'ordre de l'ordinaire et que notre société doit en faire une question sociétale pour que cet ordinaire ne soit pas un enfer pour tout un chacun quand on est en situation d'aidant.
On est allé demander dans la rue justement au micro de Laetitia Farine comment aider les aidants. Écoutez le témoignage.
Bonjour, je m'appelle Nadine et j'ai 53 ans. Ma mère est âgée et bon, je ne fais peut-être pas toujours ce que je devrais faire, mais c'est compliqué parce que j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai ma vie. Voilà, donc c'est vraiment compliqué, quoi. On a de l'aide parce qu'il y a toute une structure qui est mise en place. Il y a les infirmières le matin, le soir, il y a les aides ménagères. Enfin, il y a tout qui est mis en place, mais ça n'empêche qu'une personne âgée qui n'est plus autonome, c'est sûr qu'elle passe beaucoup de temps chez elle. Seul, malgré tout ce qui est mis en place. Quoi.
Jacques Cessillon, je ne fais pas toujours ce que je devrais faire, voilà ce qu'elle nous dit. Il y a cette culpabilité aussi qu'on entend clairement dans le témoignage aujourd'hui sur Europe 1.
Oui, il y a la culpabilité parce qu'il y a l'engagement. Hein, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que quand on n'est plus là, les choses ne se passeront pas comme elles se seraient passées si on était resté là. Donc, il y a toujours cette espèce de crainte que les choses se passent quand on n'est pas là. Et c'est justement la raison pour laquelle on a fait ce choix, en définitive, de permettre à l'aidant et à l'aidé de partir ensemble en répit. Parce qu'en définitive...
Parce que là, la culpabilité s'efface.
Elle s'efface. Il n'y a plus de sentiment d'abandon, il n'y a plus de culpabilité. Et ils sont tous les deux en répit. L'aider, parce que de toute façon, il y a des tas de choses auxquelles il ne peut plus accéder et que là, sur place, il va pouvoir retrouver. Et puis l'aidant, parce que lui, il va pouvoir se reposer sur l'équipe médico-sociale qui va prendre en charge son aidé. Et pendant ce temps, il va s'occuper de lui, faire ce qu'il a envie de faire et qu'il n'a pas la possibilité de faire le reste du temps. Il ne se donne pas la possibilité
envie,
de faire.
Catherine ?
Une question, quel est le premier conseil que vous donneriez à un nouvel aidant ? Le conseil
De penser à lui d'abord,
oui,
de penser à lui, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si soi-même on n'est pas dans l'état de santé physique, psychique, pouvant effectivement. Alors il y a un mot qui est très joli, c'est le mot aider, et dans les textes anciens et chez les Grecs, aider veut dire donner de la joie. Mais pour donner de la joie, encore faut-il
en avoir.
Et pour en avoir, effectivement, quand on est en situation d'aidant, il faut la cultiver et... J'oserais dire, banaliser cette question pour qu'elle ne soit pas ce sujet qui noue les tripes en permanence à tout le monde dans la famille. Donner de la joie, c'est un joli sujet, mais il faut la cultiver.
Et effectivement, c'est un vrai sujet de santé publique parce que les aidants actifs aujourd'hui ont besoin d'être en forme, de ne pas mettre en péril leur propre santé pour accompagner les aidants parce que si l'aidant ne va pas et qu'il est hospitalisé, qui s'occupera des aidés, et que c'est pour ça qu'il faut mettre en place des solutions pour accorder à la fois aussi du répit au quotidien, à travers des solutions telles que Tilia aussi.
Et je voudrais vous livrer un petit commentaire fait sur mon compte LinkedIn par Céline Couteau, qui est docteure en pharmacie, qui nous dit « La socio-esthétique pourrait se mettre au service des aidants, ce serait bien. » Voilà, encore une idée à prendre. En tout cas, elles sont toutes bonnes à prendre pour venir en aide aux aidants. Merci pour le travail que vous effectuez. Merci d'être là et merci d'être venue sur Europe 1 aujourd'hui.
Merci à vous.
Il est 13h45. Europe 1. Restez avec nous dans quelques minutes. On va s'intéresser à une entreprise qui est née en Alsace, qui fabrique toujours ses pâtes depuis 1922. Val Fleury est l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de retrouver l'entreprise qui va bien. Et devinez quoi, on va passer à table aujourd'hui parce que cette entreprise, eh bien, c'est Valfleury. Bonjour Sabine Marienne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la directrice générale de Valfleury qui est le premier fabricant de pâtes en Alsace. Histoire qui débute, je crois, en 1922. C'est votre grand-père dans la vallée de Fleuryval, d'où le nom, je suppose.
C'est ça, c'est ça.
Alors la vallée de Fleuryval, c'est entre Mulhouse
et Colmar.
Mulhouse et Colmar. En fait. À l'époque, je crois que c'est son oncle, c'est ça qui va l'aider à se lancer dans un secteur qui est pas évident, parce qu'il y a du monde.
Voilà, à l'époque, il y avait beaucoup de boulangers qui fabriquaient des pâtes d'Alsace, parce que la pâte d'Alsace est depuis plusieurs siècles une spécialité, on va dire.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pâte d'Alsace ?
Elle est riche en œufs. Elle est riche en œufs, et donc, alors que la plupart des pâtes qui sont vendues sur le territoire français n'ont pas d'œufs, il y a que 80%, enfin, il y a 80% des pâtes qui n'ont pas d'œufs, bah, en Alsace, on mettait des œufs.
Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans les années 20 ? Il rachète l'atelier de boulangerie et il crée, sa fabrique de pâtes.
Oui, il habite une petite rue populaire et à côté d'une boulangerie. Et quand la guerre est finie, il était jeune, moins de 20 ans. Il a eu envie d'entreprendre et cette boulangerie était en vente. Et c'est là qu'il a demandé à son oncle de lui prêter de l'argent pour pouvoir se lancer. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré.
Alors, à son décès, c'est votre grand-mère, dans les années 40, hein, qui va prendre la suite. Et puis, votre père va arriver assez tôt, puisqu'il débarque dans l'aventure. Voilà. Il a 16 ans à peine.
Voilà, c'était l'aîné de la fratrie, donc 5 enfants. Et il est venu seconder ma grand-mère. Donc, à l'époque, l'atelier fonctionnait comme à l'origine, quoi, avec une dizaine de personnes, tout en manuel. C'était purement artisanal. Et à partir de sa venue, ils ont commencé à moderniser.
Industrialisé, voilà. Il y a les machines qui arrivent.
C'est ça, c'est le début des machines.
On fait un petit saut en avant, toujours. Vous dites, mon père, c'était l'aîné. Il y a le petit frère qui rejoint dans les années 56,
voilà,
c'est
donc
ça ?
Voilà, Denis, le plus jeune frère, a rejoint mon père Frédéric, qui portait le même nom que son propre père. Et ensemble, ils ont eu la problématique de la survie de l'entreprise à un moment donné où il y avait une concentration industrielle. Et c'est là qu'ils ont imaginé de fabriquer les pâtes d'Alsace comme on les fait à la maison, c'est-à-dire avec beaucoup d'œufs, parce que jusqu'à présent, il y avait maximum 3 œufs. Là, ils ont rajouté 4 œufs de plus pour faire 7 œufs. Et en fait, c'est la quantité d'œufs qui est nécessaire pour remplacer toute l'eau.
Alors, c'est malin, parce que pour innover, ils vont chercher une recette du XVIIe siècle, c'est ça, ça
exactement. La première recette qui a été écrite, c'est un abbé, l'abbé Büchinger, qui l'a écrit dans son livre de recettes destiné au ménage, comme il appelait ça. Et c'est là qu'on retrouve la recette des noodles, des nudelés, comme on dit en alsacien. Et justement, mon père, quand nous, on est rentrés dans l'entreprise, mon frère, mon mari et moi, et il nous a dit qu'il aimerait bien retrouver cette qualité de pâte qu'il avait connue dans le petit atelier à l'origine.
Et on les voit, hein, vos pâtes, en ce moment sur Europe1.fr.
Il disait qu'elles avaient un goût, une texture particulière. Et alors, on a été un peu piqués au jeu et on a construit une ligne qui reproduisait la façon de faire artisanale, mais en processus continu. Donc la pâte, elle est pétrie dans une gramola, ensuite elle est étalée entre des rouleaux, elle est découpée en lanières, les lanières sont enroulées sous forme de nid. Et ça fait une pâte vraiment excellente, quoi, puisqu'elle est aussi bonne que des pâtes fraîches, quoi.
En fait, toute l'eau est remplacée par les œufs.
C'est ça.
On a quelques exemples. Combien de pâtes vous faites aujourd'hui ? Combien de différentes sortes de pâtes vous travaillez ? Vous nous en avez emmené quelques-unes, mais j'ai du mal à compter.
Alors en forme, on a 20 à 30 formes. Et en référence de pâtes d'Alsace, on a 35 références de pâtes d'Alsace. Parce qu'on a deux gammes de pâtes. Donc la gamme à l'ancienne, qui est née de cette idée de mon père de reproduire ce qui se faisait dans le temps. Après, on l'a déclinée dans différents formats. On travaille avec des moules en bronze, vraiment à l'ancienne. Et la gamme de pâtes bien jaune vif, où en fait, ça, c'est les processus de production habituels qu'utilisent tous les fabricants de pâtes. Ouais.
Catherine, notre coach.
Il y a beaucoup de savoir-faire et de tradition finalement dans votre histoire, mais vous êtes en plus une entreprise tournée vers l'avenir, parce que j'ai vu que vous aviez le label PME+, je crois. Vous produisez aussi des collections, je ne sais pas si on parle de collections bio, c'est peut-être pas le bon mot, des gammes bio plutôt.
Oui, tout à fait. En fait, on avait depuis près de 20 ans une démarche de développement durable. Et en 2018, on l'a fait certifier donc grâce au label PME+, qui en fait reconnaît notre engagement dans tout ce qui est emploi de proximité, l'environnement, et l'humain, etc. Et par exemple, on avait été précurseur en 2010, donc il y a 10 ans, en choisissant d'opter pour le bien-être animal et donc de faire toutes nos pâtes d'Alsace-Valfleurie avec des œufs de poule élevés en plein air.
Et puis vous avez fait aussi des patatouilles de légumes, ça c'était en 2009, c'était une innovation à l'époque. Vous disiez proximité, emploi de proximité, je crois que vous employez une centaine de personnes aujourd'hui.
C'est ça.
Chiffre d'affaires qui va plutôt bien, 28 millions d'euros et une grosse partie à l'export, 40%.
45%, oui.
La suite, c'est quoi aujourd'hui, Sabine Marianne?
On s'oriente beaucoup. Bon, on a toujours fonctionné à la passion, c'est-à-dire on a créé des produits parce qu'on avait envie de les manger et parce qu'ils avaient du sens. Donc avec de bons ingrédients, riches en ingrédients, à la fois bons pour la santé et bons, savoureux à manger. Et donc on continue toujours dans cette voie-là. On a pas mal d'idées, notamment dans le secteur du bio. Là, en 2018, on a créé deux nouvelles gammes bio avec les tendres épices. Donc ça, c'est des pâtes de légumineuses. Elles ont la particularité d'être déjà cuisinées avec des épices. Donc on n'a pas besoin de se demander « Ah, mais les légumineuses, comment je vais les cuisiner ?» C'est fait. C'est cuit en 3 minutes. Donc contrairement aux légumineuses qui prennent parfois 2 heures de cuisson. Et on s'est inspiré des recettes végétariennes pour équilibrer au mieux l'apport protéique végétal.
Donc, encore beaucoup de surprises à venir et de nouvelles gammes. Merci d'être venu nous présenter Valfleurie, c'est l'entreprise qui va bien. Merci à Catherine qui était notre coach. Rendez-vous demain.
À demain, Raphaël.
Merci à vous.
C'était Raphaël Duchemin. Dans un instant, Christophe Ondelat arrive sur Europe 1.